Parmi les acquis de la narratologie structuraliste figure la partition du texte narratif en histoire et discours. Les raisons de cette distribution sont diverses et bien connues. Rapprochement avec le signifiant et le signifié et le signifiant, et avec l'énoncé et l'énonciation d'un côté, assimilation de la fable et du sujet des formalistes russes à l'histoire et au discours de la linguiste benvenistienne de l'autre. Ce schéma a été remanié, débattu et critiqué à maintes reprises, et pour les uns, son rejet marque l'ascendance d'une narratologie post-structuraliste ou déconstructionniste. Pour les autres, le dépassement de la narratologie purement et simplement. Je n'entends pas me lancer dans ce débat dont les enjeux et les orientations sont fortement conditionnés par les différentes contraintes théoriques et par les contraintes linguistiques des langues latines, germaniques ou slaves, par exemple, mais simplement d'indiquer que, dans la pratique, cette partition problématique a montré une tendance à se résoudre en une tripartition, voire une quadripartition du texte narratif, et qu'en vérité, cet état de choses s'était installé bien avant l'avènement de la narratologie. En fait, il semble difficile de ne pas rattacher le récit à trois des cinq parties de la rhétorique ancienne. L'invention, de quoi dire, la disposition, ou composition syntagmatique et macrostructurelle, et l'élocution, le style, figure, trope, registre, etc. Cette tripartition apparaît si évidente ou banale qu'on oublie facilement la richesse de ces transformations à travers l'histoire de la poétique et, plus proche de nous, depuis le formalisme russe et le structuralisme de Prague. Et elle reste dans l'actualité, comme témoigne le tout récent ouvrage de Francis Berthelot, du rêve roman. Fruit de ses recherches et de son expérience d'écrivain, ce livre entre dans la tradition de l'Ars Poetica et il décrit de manière lucide le processus de la création romanesque, l'élaboration, la construction, l'écriture, mais aussi le processus de remaniement, question qui intéresse tout particulièrement les spécialistes de génétique, situant ce livre au cœur même de quelques-unes des préoccupations de la théorie narrative actuelle. En optant pour la tripartition du texte narratif, j'adopte également une conception de signe qui se distingue de celle des différentes approches de la narratologie structuraliste et de ses successeurs post-structuralistes, la conception persienne. Ce rapprochement de signe chez Peirce et de la constitution du récit ouvre un vaste chantier qui déborde le cadre de mes propos d'aujourd'hui, récit et iconicité. Mais quelques précisions rapides seront utiles pour les besoins immédiats. C'est dans l'interaction fonctionnelle ou relationnelle entre les trois composantes du signe, le représentement, l'objet ou le référent, et l'interprétant, que la sémiosis ou l'action du signe se produit. En confrontant la sémiosis persienne au récit, on constate une différence fondamentale de cette orientation par rapport à la narratologie structuraliste. Tandis que les modèles structuralistes postulent une équivalence plus ou moins explicite entre histoire et énoncé, ou histoire et signifié d'un côté, et entre discours et énonciation, ou discours et signifiant de l'autre, le récit vu sous l'angle de la sémiosis permet de mettre l'accent sur la relation d'inférence entre les différentes composantes du récit. Donc, au lieu d'une équivalence entre représentement et disposition, entre objet ou référent et invention, et entre interprétant et élocution, on parlera plutôt des relations syntactiques, sémantiques et rhétoriques qui se développent dans le déroulement du récit comme processus dynamique. Il est dans le cadre général, que je me propose de situer mes observations concernant l'iconicité et le récit. Je note dans un premier temps que le problème de l'iconicité dans les langues remonte jusqu'au cratylisme et que les débats autour de la question du lien conventionnel ou du lien naturel entre les mots et les choses désignées par les choses, Le socio-réalisme, et avec lui la narratologie structuraliste, a opté pour l'arbitraire du signe. Mais la persistance de la motivation dans les œuvres littéraires, par exemple, a été démontrée par Gérard de Genette dans son livre mimologique. Genette observe, par exemple, que le modèle de communication verbale élaboré par Jacobson introduit la motivation au sein du signe sous la forme de la fonction poétique, soutenant l'idée du mimétisme de l'objet littéraire. La motivation de signe, occultée pendant un certain nombre d'années par les théories qui favorisaient l'arbitraire, semble maintenant prise en compte de manière plus équilibrée grâce aux recherches non seulement en poétique, mais aussi en linguistique naturelle, par exemple, ou analyse du discours et philosophie du langage, mais aussi en sciences de la cognition, auxquelles certains aspects de la sémiotique persienne sont associés. En sémiotique, l'icône, l'index, le symbole forment la division fondamentale des signes. L'indice obéit à un critère de contiguïté ou de causalité dans la mesure où c'est un signe qui renvoie à l'objet qu'il dénote parce qu'il est réellement affecté par cet objet. Quant au symbole, qui est conventionnel, c'est un signe qui renvoie à l'objet qui dénote en vertu d'une loi, d'ordinaire une association d'idées générale, qui détermine l'interprétation du symbole par référence à cet objet. Le symbole correspond à peu près au signe arbitraire chez Saussure. L'icône, elle, est fondée sur la ressemblance ou la similitude. Selon Peirce, une icône est un signe qui renvoie à l'objet qu'il dénote simplement en vertu des caractères qu'il possède, que cet objet existe réellement ou non. Ce qui caractérise les signes iconiques, c'est qu'ils sont perçus à la fois comme des objets sensoriels en soi et comme représentatifs de quelque chose d'autre. Les trois types de signes reposent donc sur trois types de relations entre le représentamène et l'objet. Contiguïté, convention, ressemblance. Précision importante, parfois oubliée dans les discussions concernant l'iconicité, l'icône est un concept théorique, car si l'icône était pure, il serait impossible de distinguer le représentamène de l'objet. Il serait identique. Selon Peirce, grand amateur de néologisme d'ailleurs, il convient donc d'appeler toute icône matérielle, par exemple un tableau, un hypo-icône. Et quand on parle d'icône, il s'agit la plupart du temps de hypo-icône. Chez Peirce, toute catégorie se décompose en trois, et dans le cas de l'icône, cette tripartition a l'immense avantage de ne pas réduire les relations iconiques aux seules images visuelles, mais de comprendre également les diagrammes et les métaphores. D'abord, les images. Une photo d'identité est une hypo-icône qui permet au douanier, par exemple, de déterminer le degré de similitude de qualité simple entre le signans et le signatum, forme du visage, couleur des yeux, cicatrice, etc. La similitude parfaite entre le signans et le signatum rendrait la tâche du douanier impraticable. Mais d'un autre côté, le signatum n'a pas besoin d'un statut empirique précis pour qu'il y ait iconicité imaginale. Il y a quelques années, la presse française a publié la photo d'une femme algérienne dont les 8 enfants venaient d'être massacrés, photo qui évoquait indiscutablement la Pietà. À part les onomatopées et certains aspects de la phonologie, notamment la prosodie, les langues sont relativement pauvres en iconicité imaginale. Par contre, les liens entre cette forme d'iconicité et les qualités textuelles peuvent être étudiés sous l'angle de l'iconicité topologique, comme dans les calligrammes d'Apollinaire, par exemple, ou, comme je tenterai de le montrer plus loin, dans Nadja d'André Breton. Passons maintenant à l'iconicité diagrammatique. L'iconicité diagrammatique, fondée sur l'analogie, est une similitude structurale, généralement dyadique, entre les relations d'un diagramme et celles de l'objet du diagramme. Exemple, le plan d'un bâtiment une grille sur laquelle les jours du mois sont représentés, une partition musicale. À la différence des icônes imaginales, les icônes diagrammatiques existent indépendamment de leur individualité factuelle. Mais ils se prêtent à de multiples réalisations, comme une partition musicale, par exemple. Ce phénomène est connu également dans les langues, mais sous les termes de type occurrence. D'autre part, de nombreux linguistes, en particulier les spécialistes de linguistique naturelle, se sont intéressés à l'iconicité diagrammatique, et certains d'entre eux considèrent que le concept persien rend plus précis la notion de signe relativement motivé dont parlait Saussure. Si 8, 9 et 10 sont des signes arbitraires, ce n'est pas le cas de 18 ou 19. Le même principe de motivation, selon eux, s'étend à l'ensemble des catégories phonologiques, morphologiques, syntactiques, etc. Et on peut se demander si, au-delà du cas évident de la prosodie, le système de catégories de discours narratifs ne représente pas une forme d'iconicité diagrammatique. Cette question couvre un terrain beaucoup trop vaste pour moi, pour mon intervention d'aujourd'hui, mais pour mieux appréhender les possibilités et les enjeux de l'iconicité dans le récit, notamment sous ses formes imaginales et topologiques, diagrammatiques, le roman Nadja offre des exemples suggestifs et peut-être éclairants. La grande particularité de cette œuvre, comme on le sait, se trouve dans ces 48 photos dispersées à travers le texte. Mais l'un de la thèse de Lud Pictura Poiesis, ces photos ne servent pas à illustrer les scènes choisies de l'histoire, ni, contrairement aux affirmations de Breton, à remplacer les descriptions. D'autre part, la suppression des photos ne nuirait pas à l'intelligibilité générale de l'histoire, qui serait tout à fait facile à suivre, même sans les photos. Et pourtant, les images sont là, ancrées dans le corps du texte par leur légende, bribes de texte suivies entre parenthèses par le numéro de la page sur laquelle ces mots paraissent à l'origine. Prises telles quelles, les images n'ont aucun rapport évident à l'écrit, et elles semblent renvoyer à des réalités disparates, malgré quelques groupements un peu flous. Lieux, bâtiments, monuments et statues, objets d'art, quelques portraits et dessins. D'un autre côté, c'est grâce à leur légende, on voit toujours anaphorique au texte qui, lui, se poursuit sans la moindre trace de ces renvois, que les images créent des liens avec le texte pour devenir partiellement textualisé. Mais d'un autre côté, les photos forment des séries entre elles, produisant à des degrés variables des décalages entre texte et image. Un premier exemple est le portrait de Paul Éluard. La légende rend explicite le rapport d'iconicité imaginale entre les signals, le photo et le signatum, l'individu en question, assurant un lien de ressemblance ou de similitude entre les deux. Ensemble, l'image et la légende répondent à ce que Roy Harris appelait la syntagmatique interne, c'est-à-dire, je cite, la disposition des formes écrites les unes par rapport aux autres, ainsi qu'à d'autres formes dans le même espace écrit. Fin de citation. Pourtant, la légende complète montre qu'il s'agit en même temps d'une citation. En fait, on renvoie à la dernière ligne de la page 653 de l'édition Pléiade. Ce lien indexical entre image et texte fait que le portrait de Paul Éluard pénètre dans un deuxième espace graphique, mais en même temps non figural, celui du texte imprimé. Pour cette image, ainsi que pour toutes les autres dans le roman, c'est dans ce deuxième espace qu'une syntagmatique externe se constitue. Une syntagmatique toujours, selon Roy Harris, je cite, couvrant les différents rapports qui peuvent exister entre les formes écrites et les choses et les événements auxquels ces formes écrites sont liées de manière significative dans l'espace extérieur. Fin de citation. Dans le cas des images de Nadja, cet espace extérieur est l'espace textuel, voire l'espace matériel du livre. Globalement, on peut dire que les images et les légendes obéissent à une triple syntagmatique interne, dans la mesure, premièrement interne dans la mesure où, comme dans l'exemple du portrait de Paul Éluard, l'iconicité imaginale, topologique est mise en jeu. Deuxièmement, externe dans les rapports avec le texte écrit. Troisièmement, externe par rapport aux autres images contenues dans le volume. Les deux formes de syntagmatique externe relèvent de l'iconicité diagrammatique. Tout cela appelle à des analyses assez détaillées que je n'entrerai pas ici. Mais quelques remarques concernant les deux premières images du roman et de la page de texte qui les précède suffiront, je l'espère, pour mettre en évidence les grandes lignes de la problématique. On voit que les deux premières photos, placées côte à côte, sont accompagnées de légendes puisées à la page qui les précède. Je cite, « Je prendrai pour point de départ l'hôtel des grands hommes », fin de citation, et « Manoir d'Ango », fin de citation. Séparés dans le texte par quelques mots, les objets désignés sont aussi éloignés dans l'espace que dans le temps. Un hôtel Place du Panthéon à Paris vers 1918 qui marque le début de l'histoire. Un manoir en Normandie, l'endroit où Breton a commencé la rédaction de l'âge de Nadja 9 ans plus tard. Il y a donc un rapprochement typographique des deux bâtiments d'un côté et un rapprochement graphique de ces bâtiments de l'autre. Et cet exemple illustre bien, me semble-t-il, l'analogie de relation qui caractérise l'iconicité diagrammatique. Mais en même temps, ce double rapprochement entraîne un décalage sensible entre le « lu » et le « vu ». Là où le texte sépare l'hôtel et le colombier dans l'espace et dans le temps, les images, quelques centaines de mots plus loin, les unissent graphiquement, permettant au spectateur une perception simultanée des deux objets. Cette inversion quasi symétrique de l'analogie de relation confirme l'iconicité diagrammatique des deux séries. Sous réserve de confirmation, il me semble que ce schéma de base et quelques variantes de ce schéma se reproduit à maintes reprises dans le roman. Pour ne donner qu'un exemple, les images suivantes, une statue d'Étienne Molay et le portrait de Paul Éluard, renvoient à la même page précédente, mais les noms des deux personnes sont séparés d'une vingtaine de lignes d'imprimerie où on trouve les noms d'Apollinaire, de Picasso et de Jean Paulhan. Pourtant, ces noms illustres ne sont pas doublés de portraits. On peut en conclure que si les images sont ancrées dans le texte par le biais de leur légende, elles ne montrent pas de manière fidèle ce que dit le texte, que leur iconicité imaginale est partiellement subvertie par les liens d'iconicité diagrammatique développés entre le texte et les images. Et lorsque les images sont considérées dans leur relation entre elles, indépendamment du texte, elles semblent raconter autre chose que ce que dit le texte. Parfois, deux images occupent le même espace graphique, suivant une syntagmatique interne, comme c'est le cas des deux premières photos et des deux suivantes. Mais en général, les images sont séparées par une ou plusieurs pages, et c'est donc une syntagmatique externe qui prévaut. On voit dans ces deux premières images, plusieurs objets qui ne sont pas mentionnés dans le texte, source de légende, et notamment la porte d'entrée de l'hôtel et celle du colombier, représentée en bas et à gauche, Et devant l'hôtel, on voit une statue, sans doute celle d'un grand homme, tendant la main vers la porte du colombier. Mais quand on considère que l'hôtel des grands hommes est le point de départ de l'histoire de Nadja, et que le colombier est le point de départ de la rédaction du roman Nadja, l'analogie des relations liant le texte à l'image, indépendamment d'une quelconque iconicité imaginale, réaffirme la place de l'iconicité diagrammatique dans l'économie générale du récit. On trouvera dans Nadja d'autres images de portes et de statues, mais elles sont séparées par une ou plusieurs pages d'imprimerie, et elles seraient donc à examiner sous l'angle de la syntagmatique externe. Les images de portes forment une série d'une certaine importance dans le roman même. Dans le roman, même si, à une exception près, elles ne sont pas accompagnées de légendes faisant référence à une porte. Ces portes possèdent quand même leur ancrage textuel, mais c'est par le biais d'un autre procédé iconique, la mise en abîme. Cette mise en abîme prend la forme d'une anecdote concernant Victor Hugo et Juliette Drouet, située près du début du roman, et que je résumerai très brièvement. Ces personnes passent régulièrement devant une propriété à laquelle donnent accès deux portes, une grande, que Hugo désigne en disant « porte cavalière, madame », et l'autre petite, que Juliette désigne en disant « porte piétonne, monsieur ». Ces deux portes, observe le narrateur dans une allusion évidente à l'histoire de Breton et de Nadja, sont comme le miroir de sa force et celui de sa faiblesse. On ne sait lequel est celui de sa petitesse, lequel est celui de sa grandeur. L'anecdote, dont le sens est rendu explicite par le commentaire, est une mise en abîme qui forme un point de repère non seulement à l'histoire, mais aussi aux images de portes, démontrant encore une fois l'analogie de relations caractéristiques de l'iconicité diagrammatique. Dans le récit écrit, l'iconicité imaginale ou topologique est plutôt exceptionnelle. Sa présence dans Nadja nous oblige à distinguer entre toute forme d'iconicité d'ordre visuel et l'iconicité diagrammatique qui domine dans la structure narrative. Parlons enfin de la métaphore, troisième type de d'icône chez Peirce. Selon Peirce, la métaphore est une hypo-icône qui met l'accent sur le caractère représentatif d'un représentement ou signifiant en représentant un parallélisme dans quelque chose d'autre. Prenons l'exemple d'une métaphore courante, construire sa vie. Ce signe conventionnel, symbole, purpose, signe arbitraire pour Saussure, forme un parallèle avec un autre signe conventionnel, construire sa maison. Le parallélisme entre construire sa vie et construire sa maison produit une relation d'iconicité, mais en même temps le caractère indirect de construire sa vie met l'accent sur le représentement en tant que tel. Autrement dit, sur la capacité de construire sa maison à être assimilée à d'autres expressions, non seulement construire sa vie, mais aussi construire un argument, construire un patrimoine, etc. En raison de cette double caractéristique, parallélisme et caractère représentatif du représentement, la métaphore est un métasigne iconique. Essayons maintenant de lire ce processus de métaphorisation iconique par un extrait du portrait de l'artiste en jeune homme de James Joyce. Elle, Dante, n'aimait pas que Stephen jouât avec Aline parce que Aline était protestante et que Dante, dans sa jeunesse, avait connu des enfants qui jouaient avec des protestants et les protestants tournaient en dérision les litanies de la Sainte Vierge. « Tour d'ivoire, disait-il, maison d'or. Comment une femme serait-elle une tour d'ivoire ou une maison d'or ?» Aline avait de longues mains blanches. Un soir, en jouant au chat, Elle lui avait mis les mains sous les yeux. Elles étaient longues et blanches, et fines et froides et douces. C'était cela, les voir, une chose froide et blanche. C'était cela, le sens de Tour d'Ivoire. Et quelques pages plus loin, Aline aussi avait des mains longues, fines, fraîches et blanches, parce qu'elle était une fille. Ses mains étaient comme de l'ivoire, mais tendres. C'était cela que voulait dire Tour d'Ivoire. Mais les protestants ne comprenaient pas cela, et ils s'en moquaient. Ses cheveux blancs ruisselaient derrière elle comme de l'or au soleil. Tour d'Ivoire, maison d'or. En réfléchissant aux choses, on arrive à les comprendre. Il est fascinant d'observer comment, dans l'espace de quelques phrases, le sens conventionnel de Tour Ivoire est transformé de symbole conventionnel de la Sainte Vierge en une signification que Stephen trouve intelligible. Ne comprenant pas le symbolisme de Tour Ivoire, il littéralise l'expression, se demandant comment une femme peut être une tour. Les mêmes balines, sous les yeux de Stephen, répondent en partie à cette interrogation. Longue, blanche, fine, froide, elle lui suggère le froid et la blancheur de l'ivoire. Même si ces qualités restent dissociées de la Sainte Vierge, aussi bien que d'Aline. Mais la réalisation que les mains d'Aline sont douces leur donne une signification nouvelle. Elles deviennent un index d'Aline. Ses mains étaient comme de l'ivoire, mais tendres. Il peut répondre maintenant à la question « Comment une femme serait-elle une tour d'ivoire ?» En effet, il passe de la tour d'ivoire comme symbole vide de la Sainte Vierge aux mains blanches et tendres comme index ou métonymie d'Aline et de là aux mains blanches comme métaphore ou comme une des métaphores de la féminité. Un des principaux thèmes du portrait de l'artiste en journal. Autrement dit, le parallélisme Tour d'Ivoire Sainte Vierge cède au parallélisme main blanche et tendre, Aline, lequel devient à son tour méta-signe iconique de la féminité. Ces réflexions sur l'iconicité comme élément du récit sont sans doute plus suggestives que concluantes, mais elles suggèrent aussi la capacité d'une analyse narrative fondée sur une théorie rigoureuse du signe à explorer le chemin de la narrativité.